Are you racing or watching? Sometimes I wonder about you. Are you racing or watching?
La dispute. Ce soir, le spectacle vivant. Cette émission est préparée par Aïssa Toundoy, Lucille Como, Boris Pinault et Grégoire Di Fiore. Et la prise de son assurée ce soir par Théo Gomard, réalisation Daniel Finot. Autour de moi, ce soir, Philippe Noisette, Florian Guetté, Anna Segalevitch, notre affiche 2017 de Maggie Marin en tournée, Unwanted de Dorothée Monianezza également en tournée, et Play d'Alexander Ekman à l'Opéra de Paris. Aïssa Toundoy est également avec nous pour donner à entendre vos commentaires via Facebook ou Twitter, et puis toujours des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute, ce soir des invitations pour l'exposition Libre Figuration Années 80, au fond Hélène et Édouard Leclerc à Landerneau. Alors quand j'ai dit autour de moi, autant dire que c'était une façon de parler, point météo dans la dispute. Forte chute de neige dans le nord du pays, où était Florian Guetté il y a encore une heure ou deux. Sauf que son train ayant eu énormément de retard, c'est comme ça avec les intempéries, il devrait être d'ici quelques minutes. Il est déjà en ligne avec nous, Florian, c'est vrai, vous êtes en ligne avec nous ?
Eh oui, c'est vrai.
On vous entend. Est-ce que vos camarades vous entendent,
oui,
ou est-ce qu'ils ont besoin
entend.
De mettre des casques ?
Oui, oui.
Anna
oui,
et
oui.
Philippe vous entendent. Bon, et vous êtes hébergés ou pas ?
Oui, tout à fait.
Vous êtes chez Manu Farine ?
Exactement.
Ça, c'est la grande équipe et la grande famille France Culture. C'est quand même merveilleux. Merci à Manu Farine, qu'on salue au passage, de vous accueillir, étant celle qui habite le plus près de la gare à laquelle, dans laquelle vous êtes arrivé. Bon, soyons un petit peu sérieux, puisque c'est ce qu'on va être. Et on va ouvrir cette émission avec le nouveau spectacle de Maggie Marin 2017, créé le 4 octobre dernier au Centre culturel André Malraux de Vendeuvre-les-Nancy, qui vient de faire escale à la MAC de Créteil avant de poursuivre sa tournée. Je donnerai lieu et date tout à l'heure. 2017, qui se présente comme un spectacle sur l'aliénation du plus grand nombre dans notre environnement néolibéral. Alors dit comme ça, évidemment, ça fait un petit peu peur. Et puis surtout la question, comment traiter cela chorégraphiquement ? Réponse dans quelques instants avec nos critiques. Se mettre peut-être dans l'ambiance de cette Babylone de 2017. Peut-être commencer, Philippe Noisette, par donner des images, parce que c'est quand même une scénographie présente, très présente, c'est le moins qu'on puisse dire, pour 2017.
Oui, comme souvent chez Maggie Marin. Je vais commencer par la citer, tout simplement, parce qu'elle dit « J'avance assez peu sur les formes avant qu'elles ne surviennent ». Il semblerait que la forme qu'elle nous présente, donc cette forme qui porte le titre de 2017, était reçue par Maggie comme un coup de poing.
Maggie Marin, vous avez un blâme. Si vous continuez, vous êtes expulsé du studio, on sera embêté, il n'y aurait plus qu'Anna ici en direct. Donc, Maggie Marin.
Je pense que c'est quelque chose qui est survenu comme ça dans la trajectoire de Maggie Marin, qui lit beaucoup, qui se documente, et puis il semblerait que en cette fin d'année 2017, elle a vraiment voulu peut-être montrer des points, montrer un spectacle qui parle de cette société à la dérive, hein, du néolibéralisme, de ce monde où les plus riches sont toujours plus riches, les plus pauvres n'ont plus grand chose. Tout ça avec la force de Maggie Marin, hein, qui est aussi, j'ai envie de dire, une femme de théâtre, une femme d'objet scénique. C'est une pièce compliquée à recevoir. On ne s'attend pas forcément à cette chose-là. La pièce commence presque en citant une pièce, une chorégraphie précédente de Maggie Marin, Beat. On a l'impression que c'est une suite. Une farandole de gestes, et puis tout d'un coup il se passe autre chose, comme s'il y avait une implosion. C'est une pièce qui donne à réfléchir, qui met mal à l'aise, qui n'est pas complètement convaincante dans la forme et le propos. C'est aussi une pièce où le théâtre de l'intime, hein, qui est une chose qui revient souvent chez Maggie Marin, est travaillé d'une autre façon. Il y a peut-être un problème à ce niveau-là, notamment pour les danseurs qui ont beaucoup de mal à se frayer un chemin, tout simplement parce que la scénographie qui consiste en des pièces que l'on va détacher, qui vont devenir des espèces de stèles, empêche beaucoup les mouvements. Il y a une vraie contrainte, ce qui fait que 2017 n'est jamais une pièce confortable, n'est jamais une pièce évidente, évidente aussi pour le spectateur, hein, le spectateur que je suis, mais aussi les spectateurs qui étaient dans cette salle l'autre soir à Créteil. On a senti une réception très 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 froide, très mitigée. Pourtant, ce travail politique, c'est le travail que continue Maggie Marin depuis longtemps. Ce n'est pas une surprise. Peut-être que la pièce arrive à un moment particulier, notamment en ce qui concerne Maggie Marin, qui renouvelle un petit peu notamment les gens qui l'entourent. Tout ceci fait que 2017 interroge.
Alors, Florian Guettet, on a eu quelques images, mais pas beaucoup, hein. Enfin, contrairement à ce que j'avais demandé à Philippe Noisette, un peu de description. C'est vrai qu'il a évoqué ces stèles, alors des pays, des personnes, effectivement comme un échiquier, mais démesuré, à travers lesquels il faut que les interprètes se frayent, en effet, un chemin. Peut-être quelques images, Florian Guettet, de ce spectacle de Maggie Marin 2017.
Oui, d'autant que c'est une pièce qui est efficace précisément par son aspect visuel, par son rythme, par la musique, par les mouvements, plus que par le discours qui lui est un peu qui est un peu littéral et pas forcément très nouveau par rapport à cette réflexion sur la globalisation. Mais effectivement, les images, elles sont très prenantes. Alors on commence par cette farandole qui mène à une forme de carnaval de la jouissance de la consommation, où tous les personnages, de manière assez imperceptible, s'alourdissent de déguisements grotesques, de sacs de shopping, d'une sorte de boursouflure matérielle qui va les ridiculiser, les appesantir, les aliéner, le tout avec un énorme sourire qui évidemment qui montre cet acquiescement au consumérisme et qui en même temps est assez cynique évidemment. Donc la scénographie intervient à peu près au premier tiers de la pièce, un peu moins, premier quart peut-être de la pièce, et effectivement on a ces sortes de cubes qui se relèvent et forment un cimetière. Et il va y avoir trois salves de relevés en fait de ces colonnes hein, qui font au début la scène et qui vont effectivement devenir une scène très encombrante pour les interprètes, où ceux-ci qui vont interpréter tantôt un homme d'affaires, un cow-boy, une pin-up, un dictateur, un banquier, un chef de famille tout-puissant, etc., c'est-à-dire toutes les figures symptomatiques des relations de pouvoir dans notre société actuelle, et ils vont évoluer entre ces stèles jusqu'à même qu'un patchwork de drapeaux du monde vienne recouvrir tout ce cimetière, hein, parce que ça ressemble vraiment à un cimetière, et que ces dominant finalement marche allègrement sur les drapeaux et découvre les stèles comme si finalement leur domination du monde se soldait toujours par quelques morts collatérales. Et donc je sais pas si vous en avancez déjà sur la fin, mais c'est vrai que cette scénographie, dites-moi.
Non, je vais revenir vers vous peut-être pour entendre une première fois aussi Anna Sigalevitch sur cette pièce de Maggie Marin 2017.
Sur les images aussi.
Comme vous voulez.
Florian et Philippe ont très bien décrit, donc je vais peut-être pas revenir sur ça en effet. Pour moi, c'est problématique parce que ce que Philippe a dit avec beaucoup de délicatesse, je vais le dire avec un petit peu moins de délicatesse, pour moi, ces images, elles écrasent tout, en fait. Et le début de chorégraphie qu'il y a, qui ressemble en effet beaucoup à Beat avec ses farandoles, etc., après, ça disparaît complètement et on ne voit que des images qui, pour moi, sont assez lourdes, assez convenues. Et ne me donne pas d'espace pour réfléchir. Moi, ce que j'aime beaucoup avec Maggie Marin, dont j'aime vraiment le travail, c'est que je trouve qu'elle fait habituellement appel vraiment à l'imaginaire du spectateur et qu'il y a un mélange de trivialité en scène avec quelque chose de souvent très concret, avec quelques éléments et puis des échappées assez oniriques, beaucoup plus fantaisistes, qui ne raconte pas des choses précises. Le sens est souvent ouvert. Alors oui, c'est politique, oui, c'est engagé, mais il y a quelque chose d'ouvert. Là, pour moi, on nous assène des choses et il y a un rapport de cause à effet d'une situation à l'autre que je trouve extrêmement binaire et basique dramaturgiquement. Donc, alors, il faut aussi dire une chose, c'est qu'il y a des images, mais il y a ce son. Donc, quand on entre à la MAC de Créteil, on nous distribue des boules-quies. Bon, donc on fait souvent ça, hein, on l'a vu il y a 15 jours avec Vincent McCain. Pardon, mais pour moi, ça n'a aucun sens, en fait. Je comprends pas pourquoi on nous distribue des boules quies parce que c'est trop fort et que le son est insupportable. Oui, mais c'est pénible, en fait.
Ouais, ouais.
C'est pénible physiquement. Moi, ça me fait mal aux dents, ça me fait mal aux oreilles. Je trouve ça. Pourquoi est-ce que je dois subir ça? Je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que la musique pourrait pas être un peu moins forte? Le propos n'est pas assez fort. Il faut qu'on soit agressé dans nos sens. Ben, j'y crois pas, en fait. Pour moi, ça révèle quelque chose qui est problématique. Et, bizarrement, voilà, j'étais très contente d'aller voir le spectacle. Quand j'ai reçu les boules-quies, je me suis dit « Oh mince !» Et malheureusement, ça a conforté ce que je présentais à la réception de ces boules-quies. C'est-à-dire que, voilà, il y a ces stèles, ces 80 stèles, effectivement, elles sont impressionnantes, mais ce ne sont que, pour moi, ce ne sont que des images. Qu'est-ce que ça raconte? Honnêtement, je ne sais pas. C'est-à-dire qu'on passe de, oui, les grandes marques avec comme l'a très bien décrit Florian, une espèce de carnaval, comme ça, un peu Commedia dell'arte, où les visages grimacent, où il y a une forme de cynisme. Puis ensuite, on arrive donc sur ces prénoms avec le drapeau américain qui flotte. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, il y a une chose qui n'est pas... Bon, pourquoi pas inintéressante, mais le côté la réalité qui dépasse la fiction. C'est-à-dire qu'on est dans une espèce de grande comédie, dans un grand western, dans un Far West, et il n'y a plus de règles, en fait. Et on se met en scène, on est allé tellement loin que voilà, le monde est devenu une sorte de grand western. Bon, d'accord, mais honnêtement... Moi, ça m'a pas du tout stimulée. Je suis restée assez extérieure et du coup, d'un point de vue purement chorégraphique, j'ai trouvé ça très limité de par toutes ces contraintes aussi physiques, scénographiques.
Sur la question du fond, Florian Guettet, comme vous pouvez pas me faire de signe, je vous donne la parole, hein, puisque vous êtes au téléphone. Je rappelle les intempéries vous ayant empêché d'arriver jusqu'à la maison de la radio, en l'occurrence, Florian.
Oui, bah le fond, c'est clairement là où ça pêche, hein. C'est-à-dire qu'elle dit s'être entourée de points de vue d'économistes, d'historiens, d'essayistes, mais en fait, finalement, son auteur principal, c'est Benjamin, donc quand même celui qui a essayé de fustiger la société des chocs, mais il y a bien 100 ans, donc évidemment, la situation a changé. Et l'impression d'ensemble qui reste, c'est que finalement, Maggie Marin a un peu la vision courte sur ça. On est sur 2017, l'actualité, mais elle n'arrive pas à différer de cette actualité-là. Elle ne trouve rien de novateur dans les discours et elle ne propose rien, elle ne propose aucune issue, aucune alternative. Il n'y a aucune vision prospective de tout ça. Donc on se tient dans un présent qui est décrit comme une impasse et le mur final, qui est donc un mur qui est reconstitué à partir donc, de ces morceaux de cimetière, de ces stèles qui sont à un moment démontées, qui sont comme un jeu de domino, qui sont exposés au sol. Et bien, on va les remonter et ça va former un mur des milliardaires, en fait, de tous des happy few qui
possèdent.
Oui. Et oui, c'est ça, c'est ouais. quand tout explose, ben, c'est à nouveau les mêmes qui reconstruisent. On a zéro marge de manœuvre comme spectateur ou comme petites gens. C'est-à-dire que, voilà, tout explose et puis finalement, c'est les mêmes qui recommencent et nous, on a zéro marge de manœuvre là-dedans. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti.
C'est ce qu'elle veut, c'est ce qu'elle veut elle, nous faire dire, quoi, que nous-mêmes, nous sommes coincés, que le temps est lui-même, que 2017, c'est le monde face à un mur qui n'a aucune issue possible, ou voilà, dans un monde qui est sclérosé, où les possibilités de révolte ou d'émancipation sont de suite étouffées. Et moi, je suis pas convaincu, évidemment, de cette vision du monde comme au pied du mur. Je pense qu'il y a Noémie Klein, il y a Thomas Piketty, il y a Rifkin, il y a Stigler, il y a Boltanski, il y a plein de gens qui aujourd'hui réfléchissent à des solutions et qu'elle aurait pu aussi convoquer. D'autant que ça l'oblige à présenter le tragicomique, la caricature ou le rire comme la seule issue, la seule réponse qu'elle-même peut apporter. Et là, moi, je trouve que la caricature flirte vraiment avec le grossier. Et ça rejoint cette forme de propos un petit peu boursouflé sur ouais, théoriquement, quoi, qui est pas très très creusé, pas très fin.
Alors,
un certain fatalisme.
Aïssa Ntoundoye, un petit commentaire avant d'entendre Philippe Noisette à nouveau.
Un message de Yann Calberac sur Twitter qui nous dit, je le cite, 2017, rien vu d'aussi lourd et caricatural. Une belle scénographie, mais quel ennui.
Philippe Noisette.
Alors, la caricature, est-ce qu'elle n'est pas dans la presse aujourd'hui? Est-ce qu'elle n'est pas dans les informations? Est-ce qu'elle n'est pas... On parle des murs sur les stèles qui, à un moment, sont dressés comme cela. Il y a des noms, des noms d'anonymes, des noms... C'est vrai que si on n'y prête pas attention et si on est très très loin dans la salle, on peut très bien ne pas voir ces noms gravés.
Des noms, des pays.
Des noms.
D'abord des noms, après des pays.
C'est vrai que c'est important de rappeler ces signes ne sont pas là comme ça. Il y a quand même une volonté chez Maggie Marin, qui est quelqu'un d'une intégrité rare, au-delà d'être sans doute la personne la plus importante dans la danse française, je pense. Il y a une façon de donner à ce moment-là, non pas la parole, ce n'est pas la question, mais de montrer en écrivant simplement sur une stèle le nom de... Alors je ne sais pas où elle a trouvé ces noms, c'est pas très difficile de trouver les noms des victimes dans tous les sens du terme de l'exploitation, du capitalisme et autres. Cette façon de montrer cela, ce n'est pas justement avoir des gros sabots et dire le mur qui nous attend, on va se le prendre en pleine figure. C'est un petit peu plus sophistiqué que cela, et on ne peut pas voir cette pièce sans penser aux pièces précédentes de Maggie Marin. Moi, j'ai vraiment repensé à une pièce qui s'appelle Ça quand même. Et Ça quand même, c'est une pièce de Maggie Marin avec Denis Mariotte, qui est assez peu vue. Il se trouve qu'au moment du protocole d'indemnisation des intermittents, des artistes intermittents, il y a eu beaucoup de questions, et notamment des gens qui disaient, qui faisaient remonter les informations à Maggie Marin en disant « On ne comprend pas pourquoi vous avez besoin de ça, quelles sont vos demandes ?» Et donc elle avait fait un spectacle avec Denis Mariotte, qui était son collaborateur et compagnon de l'époque, où elle essayait de donner des clés. C'est un spectacle qui n'a pas été reçu, mais la meilleure façon. Mais la même année, elle créait Umwelt. J'ose espérer que 2017 annonce un spectacle qui va venir et qui sera peut-être aussi fort que Umwelt, qui sera peut-être la seconde partie de cette création, parce qu'effectivement on n'entend pas Occupy Wall Street, on n'entend pas La Nuit Debout, parce que tout simplement elle n'avait peut-être pas le c'est une pièce d'une heure trente quand même, ce n'était pas le moment pour elle de dire ça. Les artistes ont un temps. Voilà, je pense que c'était le temps, même si je ne reçois pas la pièce aussi favorablement que je voudrais, étant vraiment un grand fan de Maggie Marin, je pense qu'il faut lui laisser ce temps-là.
Anas Galevitch. Florian Guettet, allez-y.
Non, juste une phrase, mais le temps, justement, je crois qu'elle l'a, je crois qu'elle-même, elle dit, ça fait longtemps qu'on est dans cette situation, et moi, c'est un peu ça que je lui reproche. C'est-à-dire que pour moi, elle a été efficace scénographiquement, cette pièce, que moi, la saturation et l'inconfort musical, contrairement à Nas, ça m'intéresse, mais le propos, comme ça, très creux, de tout focaliser sur l'argent roi, de rien avoir sur les relations sociales, rien avoir sur, effectivement, les solutions politiques, l'écologie, enfin, il y a beaucoup de combats, les combats de genre, enfin, vous voyez, il y a quand même beaucoup d'autres choses à faire pour le constat de 2017. Je trouve que tout ça est un petit peu survolé, et du coup, ce rire du désespoir est une action par défaut, ce à quoi on se résout finalement quand on ne peut plus rien faire. Et je trouve ça... Je m'attendais à quelque chose de peut-être moins définitif dans cette forme, parce que je ne suis pas sûr qu'il y aura une suite. Moi, j'ai pas l'impression que ça appelle à une suite.
C'est peut-être une nouvelle étape de son travail. C'est un peu ce que j'entendais dans le propos de Philippe Noisette, espérant qu'une pièce suivante se nourrira peut-être des imperfections de celle-ci pour aboutir à un propos plus fort et où le spectateur aura plus de place. Anas Galevitch.
Mais c'est intéressant, je trouve, ce que dit Philippe, parce que on peut prendre.
Merci.
Pas toujours, mais là, en l'occurrence, oui.
Pardon, merci, c'est pas ce que je voulais dire. Mais que je veux dire, c'est qu'on peut, je trouve, entendre, enfin, voir cette pièce vraiment, en effet, comme une sorte de matériau un peu brut qu'elle balance comme ça sur scène, et dont, pour moi, il n'y a pas encore le dessin et la précision dramaturgique et la finesse. Voilà, on peut le prendre comme ça, comme une sorte de ras-le-bol qu'elle crache, tout ça. Après, ça n'empêche que sur le fond, moi, je pense que c'est ce qu'elle dit, il n'y a en effet rien de neuf. Parce que quand elle dit une chose, dans la note d'intention, elle dit « Nous ne sommes pas acculés à cette tristesse qui nous inflige. » Elle ne veut pas déplorer l'état des choses, mais plutôt recharger du courage. Or, moi, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Je me suis sentie complètement collée à mon fauteuil, devant, effectivement,
le triste état du monde.
Le triste état du monde, bon, soit, certes.
Mais sans échappatoire, sans perspective lumineuse.
Voilà.
Bon, allez voir par vous-même, si vous le pouvez, 2017 de Maggie Marin, qui était présentée ces derniers jours à la Maison des Arts de Créteil dans le cadre du Festival d'automne. Les prochaines dates, on passe au mois de février, 20 et 21 février à l'Opéra de Lille, 24 février, Théâtre de Charleville-Mézières, 27 et 28 février, Maison de la Danse de Lyon, le 2 mars au CDC Les Hivernales à Avignon, 27 mars, Maison de la Culture d'Amiens. Petit tour à l'étranger, 16 et 17 avril 2017 sera présenté à Amsterdam. Et enfin, les 16 et 17 mai à la MC2 à Grenoble. À suivre dans la dispute, Dorothée Mounianetza et Alexander Ekman.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte. Get the right.
Bon, j'étais trop vite, ou Twitter pas assez, Aïssa Toundoy, un post-scriptum sur 2017.
On vient d'avoir un message qui nous dit « Vous passez complètement à côté du 2017, c'est une œuvre révolutionnaire, comme description d'un combat. Maggie Marin joue avec
Philippe
la distanciation brechtienne en la réinventant. Elle met à distance la distanciation et crée une intimité dans le quasi-grotesque tout à fait neuf. »
Bon, écoutez.
C'est un message de Ballerine et Socrate.
Ah, ils se sont mis à deux. Merci pour ce message, on y réfléchira, mais on va poursuivre pour l'heure cette émission consacrée ce soir à la danse avec un spectacle créé l'été dernier au Festival d'Avignon, Unwanted, signé Dorothée Mounianetza. Elle est chanteuse, musicienne, danseuse, comédienne, auteure, chorégraphe. C'est un festival à elle toute seule. Elle avait signé une première pièce en 2014, Samedi détente, qui évoquait le génocide des Tutsis au Rwanda. Unwanted est comme une poursuite de ses récits, s'intéresse au corps des femmes, au corps violé. Ça parle du Rwanda, bien sûr, mais ça parle aussi de nombreuses guerres partout dans le monde.
À cause de toi, ma mère a été tellement frappée, papa.
Unwanted de Dorothée Mounialesa qui mêle, on l'entend, chorégraphie, texte, chant, musique. Alors, musique au téléphone de Florian Guettet, je le rappelle, hein, dépêche AFP à l'instant, le Nord et le Pas-de-Calais sont en vigilance orange, neige, verglas, ce qui fait que votre train est arrivé bien tard, Florian, vous êtes hébergé par Manu Farine, qu'on salue. Soyons sérieux, parce que effectivement, Unwanted nous y invite. Premier regard, Florian Guettet.
Oui, vous l'avez dit, c'est finalement dans le prolongement de sa première pièce où elle évoquait déjà le massacre des Tutsis, sauf qu'on passe du récit individuel au récit collectif. Alors en fait, c'est une pièce qui est pas vraiment chorégraphique, hein, on est plutôt dans du théâtre musical. Alors certes, il y a un peu de chorégraphie, ce sont des danses libres, sans doute tirées des témoignages de ces femmes qu'elle est allée chercher, qu'elle a recueilli sur place les témoignages des femmes violées, parfois de leurs enfants. Et finalement, on a deux lignes, on va dire, dramaturgiques. D'un côté, ces témoignages qui sont retransmis sur haut-parleur de façon très brute, très sobre. Donc on entend les choses avec une teneur extrêmement violente, des corps qui pourrissent, des rapes, la douleur, la peur, le viol jusqu'à la mort, les pillages, un conseil de tuer un enfant, hein, qu'on appelle la hyène à un moment, parce qu'évidemment, il est né d'une relation non désirée. Et puis, entre ces témoignages, une partie plus théâtrale, plus concert, plus poétique, plus irréel aussi, qui est renforcée avec beaucoup d'effets, puisque le compositeur, donc il y a une chanteuse, Holland Andrews, qui est américaine, et puis un compositeur, Alain Maé, qui vient d'Irkam, et qui travaille sur à créer des effets, en fait, et sur les voix, et sur les effets de scénographie, des pierres qui des échos, des déformations de voix, de la réverbe, etc. Donc on a une partie très pleine et une partie très 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 sobre. Et moi, ces deux lignes-là, ben, elles m'ont laissé un petit peu en dehors la plupart du temps, parce que d'un côté, il y avait une frontalité qui m'a tenu à distance, et de l'autre, une sorte de déréalisation, d'irréalité qui m'a éloigné autant de l'histoire des femmes. Parce que finalement, on les entend, ces histoires de viol, hein, mais on peine à se sentir concerné finalement dans ce dispositif-là. Donc moi, je suis vraiment passée à côté, puis j'ai trouvé chorégraphiquement que c'était quand même assez léger. Donc je m'interroge, d'autant que j'ai vu Milora ou Compassion, Histoire de la mitraillette juste avant, qui lui parlait, évoquait aussi ce même
génocide.
Sujet. Mmh. Et il avait eu l'intelligence d'interroger le regard occidental sur cette question-là, presque nous culpabiliser. Et je trouvais ça beaucoup plus intéressant, alors que là, on a une forme de livraison très brute, sur laquelle, qui, moi, m'a laissé vraiment très en retrait.
Anna Segalevich sur Unwanted de Dorothée Mounialesa.
Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas de... Florian a raison, il n'y a pas ça, il n'y a pas de... On ne peut pas dire qu'il y a une réflexion sur le génocide, sur tout ça. Mais moi, ça m'a vraiment plu comme spectacle et intéressé, parce qu'elle m'a intéressé beaucoup. Et que je trouve qu'il y a une profondeur dans ses gestes, dans sa voix, qui sont quand même assez rares. Enfin, on comprend vraiment ce que c'est que le poids et la présence d'un corps sur scène. La forme est assez... Alors oui, il y a beaucoup d'effets, comme le dit Florian, c'est vrai. Mais en même temps, c'est quand même assez simple. Hein. Ils sont trois en scène, il n'y a pas non plus 50 trucs. Alors il y a cette pédale de looping là qui
boucle les voix.
Qui double les voix pour créer une sorte de polyphonie. Il y a une colonne corinthienne qui est en scène avec une sorte de papier... comment ça s'appelle? Ondulé, merci.
Oui.
Un papier ondulé. Il y a deux grands pots qui sont un peu comme des mortiers avec des bâtons de bois. Et il y a le compositeur qui est sur le proscénium à jardin et qui vers lequel elle va pour entendre les voix qu'elle traduit, etc. C'est en effet relativement simple, mais moi j'ai trouvé que tout était juste. C'est-à-dire qu'elle ose le théâtre, elle ose une forme de théâtralité, de lyrisme, d'onirisme, de poésie, ce qui est pas, enfin, faut faire attention avec quand on recueille ce genre de paroles, le théâtre documentaire, etc., on peut se méfier de tout ça. Et je trouve que ça marche parce que elle arrive à prendre en charge tout ça et à le ressortir en le transcendant, et qu'elle a une présence, qu'elle a une voix absolument magnifique, elle a une façon de se mouvoir en scène. Moi, je trouve que ces gestes sont très intéressants, la façon dont elle accroche cette colonne, qu'elle gratte, la façon dont elle bouge, la façon dont à un moment, elle incarne l'enfant de donc cet enfant né du viol, donc d'un père bourreau et d'une mère violée, la façon dont elle incarne cette violence qu'il a en lui, cette je trouve que c'est étonnant et que c'est vraiment réussi, c'est simple et c'est fort.
Philippe Noisette, sur ce spectacle de Dorothée Monialetza.
Je pense vraiment que seule une danseuse, et en l'occurrence danseuse et musicienne, pouvait être la voix ou porte-voix de ces femmes. C'est un long processus. Hein. Elle a rencontré une chercheuse qui collecte justement des témoignages. Alors on peut se dire, on en a lu dans la presse, mais on ne les a pas vraiment entendues. Et donc elle est cette caisse de résonance. Elle est ce corps. Elle a toute cette façon de prendre sur elle sans jamais en rajouter, parce qu'on ne sait jamais comment ça va ressortir ça peut être une voix, ça peut être une note, ça peut être un cri. Anna parlait très bien de cette espèce de colonne en tôle ondulée avec avec un papier comme ça qu'elle griffe, qu'elle arrache. Moi je trouve que c'est une scène incroyablement forte qui arrive comme ça sans qu'il y ait vraiment d'effets. Je trouve justement que les effets, il n'y en a pas trop, en tout cas pas trop à mon goût. Contrairement à Samedi Détente, il faut dire quand même que Samedi Détente, c'était évidemment par rapport au génocide des Tutsis, mais aussi l'exil qu'elle elle-même subit en étant en marchant. Elle était séparée de sa mère. Donc là, c'est une autre histoire. Ce n'est plus tout à fait son histoire, mais c'est encore son histoire. Elle est rwandaise, elle a vécu à Londres, elle vit maintenant, elle est installée à Marseille. Et je trouve que concentrer tout cela, toute cette histoire de viol, qui est quand même la pire arme de guerre du moment. On parle de plus de 100 000 viols au Rwanda, mais dans d'autres pays, c'est la même chose. Évidemment, les enfants qui vont être la plupart du temps soit rejetés, soit... Je trouve que tout cela, avec une simple parole, une simple voix, celle de Dorothée Monialetza, je trouve que c'est vraiment assez fort.
Voilà. Alors ces voix, il faut quand même rappeler qu'on les a aussi lues sous la plume de Jean Hatzfeldt, qui lui aussi collecte depuis 20 ans maintenant, et même un peu plus, justement, des paroles de victimes, de bourreaux, d'enfants de victimes, d'enfants de bourreaux. Et c'est ce que fait aussi magnifiquement Dorothée Monialetza, qui est vraiment chargée de cette histoire. Alors il y a quelque chose, effectivement, elle est certes une interprète, et je trouve aussi d'une... qu'elle dégage quelque chose d'une qualité rare dans la présence scénique et dans une maîtrise très grande. Mais c'est plus son histoire, comme vous le disiez, Philippe Noisette, mais c'est effectivement, ça fait partie tout à fait d'elle, de l'histoire collective. Mais je crois que c'est effectivement seul quelqu'un qui concerne de si près peut sans doute restituer, il faut le talent, mais peut restituer ensuite ce type d'émotion, de sensation aussi, parce que c'est pas seulement, ça joue pas sur le pathos, c'est vraiment quelque chose de l'ordre d'essayer de nous donner à ressentir, à faire ressentir, alors très, très, très lointainement, nous sommes des spectateurs d'un spectacle, la mise à distance dont on parlait tout à l'heure, Hippocrate et ballerine, je ne sais plus, pardon, comment il s'appelait,
Socrate et ballerine. On sent quand même ce que c'est que de survivre, de rester en vie et de monter sur une scène pour porter une parole. De façon aussi palpable, c'est très rare. Moi, j'ai rarement senti à ce point ça.
Alors, Florent Gletté, vous ne l'avez pas senti, vous, donc je reviens un peu vers vous, qui êtes toujours au téléphone.
S'il y a une chose sur laquelle je pense qu'on est tous d'accord, c'est la personnalité de Dorothée Monialetza. Et sans la connaître personnellement, elle a absolument toute la sympathie. C'est une interprète d'une grande force, d'une grande énergie. Elle est présente, sincère, et cette pièce est l'occasion de le montrer. Moi, le problème, il est pas là. Moi, je suis beaucoup plus réservé sur le traitement de tout ça, parce qu'effectivement, c'est elle qui porte cette voix, mais en fait, elle s'inspire quand même de deux films par des gens qui ont recueilli des témoignages, mais qui n'ont absolument pas vécu et qui l'ont fait quand même avec beaucoup de sérieux.
Ah, tiens, on vous a perdu, Florent Gletté. Hop, oui, qui l'ont fait avec beaucoup de sérieux, parce qu'on a perdu la suite de la phrase.
Oui, qui l'ont fait avec beaucoup de sérieux et de force. C'était Rwanda, la vie d'après, d'André Versailles et Benoît Dervaux. Et Mauvais souvenir de Marine Courtade et Christophe Buffier. C'était le travail préparatoire de Dorothée Monialetza. Donc, preuve en est qu'on peut, malgré tout, raconter cette histoire sans être forcément directement immergé. Non, moi, là où ça m'a un peu plus dérangé, c'était pas cette force de déploiement d'énergie, mais c'est à quoi il va, ce déploiement d'énergie. Philippe, vous dites, elle n'en fait pas trop. Enfin, il y a quand même des scènes d'hystérie. On finit dans du noise, dans une sorte de mélopée absolument chaotique. Où il réussit, alors évidemment il a du mal à se dire à être signifiant parce que c'est l'horreur du trauma et que c'est difficile et qu'il ne reste plus que la volonté de crier, mais du coup on a des vocalises saturées qui m'ont vraiment indisposé. Dans la gestuelle, il y a des gestuelles qui peuvent être affectées. Alors, moi je n'ai pas bien vu l'écriture dans tout ça, mais ça c'est pas trop important. En revanche, c'est une gestuelle métaphorique hyper illustrative, quoi. Le papier déchiré pour dire la blessure, le soin corporel pour laver la honte, le mortier et le pilon pour la pénétration forcée, les soies de pierre amplifiées pour dire la violence des coups, etc. Et ça se retrouve aussi dans les textes. On a des standards du jazz, on a des extraits de musique pop, un Ave Maria qui s'étouffe, et puis des impératifs qui, je trouve, appuient un peu artificiellement, un peu de façon anecdotique le propos. Never forget, on l'entend 20 fois. J'ai un compte à régler avec toi, on l'entend. Il est quand même martelé. Donc moi, c'est-à-dire que je trouve qu'il y a une grande force d'interprétation. Il y a un super matériau, mais que la rencontre dramaturgique, moi, elle m'a laissé un peu de marbre.
Bon, c'est pas complètement faux, non.
Non, mais c'est problématique. Dit comme ça, qu'est-ce qu'on peut répondre?
Moi,
j'ai quand même envie d'essayer de vous répondre. Hein. Je ne sais pas si je vais y arriver, mais pour moi, il y a de la dignité là-dedans. Je trouve que même si vous dites qu'elle crie, qu'elle en fait peut-être un peu trop par moment, pour moi elle en fait pas trop parce qu'elle est centrée, cette fille. Il y a quelque chose de qui est planté dans le sol avec une vitalité qui est très très grande et je trouve qu'elle ne se complaît jamais dans la violence de ce qu'elle décrit.
Philippe Noisette.
Oui, le cri, comment ne pas crier. Enfin, c'est très difficile de résumer
tout. C'est horrible ce qu'elle raconte.
Voilà, elle le fait avec une voix qui n'est jamais n'accuse pas. Elle n'essaye pas d'avoir la complicité du public. Je veux dire, elle a vraiment, c'est vrai, oui, le terme de dignité est sans doute le terme qui convient le mieux. Si Florian passe à côté de cela, oui. Après, oui, on peut trouver.
Non, il passe pas à côté. Il a bien tout noté, mais en tout cas, il dit pourquoi lui ça.
Oui,
ne,
mais il
ne
faudrait peut-être
pas
qu'il oublie justement tous ces petits accessoires qui ne sont pas si importants. Je veux dire.
C'est pas des accessoires, Philippe. Vous pouvez pas dire ça. Je vous parle pas d'accessoires. Là, je vous parle d'un ressentiment. J'ai eu 1000 euros, 15 jours avant. J'avais cette comparaison là en tête. Et à côté, je trouve que Dorothée Moulinéza, c'est un exercice d'école et que Laura, il montre que c'est qu'une vraie mise en scène. Donc moi, j'ai été beaucoup plus sensible, ou en tout cas, lui, il m'a beaucoup plus parlé, je me suis senti beaucoup plus concerné par ces récits que lui a mis en scène, plutôt que Dorothée Moulinéza, qui pourtant a des velléités de montrer que ces histoires-là, elles se passent pas qu'au Rwanda, qu'elles se passent aujourd'hui même au Congo, en Syrie, en Birmanie, et pourtant, je me suis senti extérieur. Maintenant, c'est une expérience, c'est pas qu'une analyse. Moi, je me suis senti vraiment très distancié de ce spectacle.
Bon, ils sont pas au même niveau de leur carrière artistique. Miller House est un très grand, très fort. On compte pas les spectacles qu'il a fait. Ce n'est que le deuxième signé Dorothée Moulinéza.
Oui, qui a été interprète dans pas mal de créations. Je pense qu'elle cherche peut-être une forme. Je trouve qu'en tout cas, là où elle en est maintenant, c'est quand même, je vais pas parler trop, c'est pas du tout ça, mais elle en est vraiment à un moment assez digne. C'est ça qui m'intéresse. Je ne voulais pas m'affronter à Florian, mais voilà, je ne voulais pas qu'on mette comme ça en avant ces petits éléments qui sont effectivement présents, qui par moment, moi, effectivement, j'étais à deux doigts de me dire non, pas ça, et en même temps non, parce que voilà.
C'est vrai
que c'est un spectacle qui provoque des petites choses comme ça assez épidermiques dans un sens ou dans l'autre.
Mais voilà. Vous conviendrez, Florian Guettet, qu'il n'y a pas beaucoup d'artistes qui feraient bonne figure face à Miller Howe. Il est quand même à un niveau très exceptionnel.
Ah non, exactement. Maintenant, il ne faut vraiment pas s'interdire la comparaison non plus.
Non, mais bien sûr.
Encore une fois, elle a toute ma sympathie. J'irai voir de toute façon son troisième spectacle.
Bon, on lui transmet le message. Unwanted de Dorothée Moulinéza. Lui aussi a été présenté à Paris, en région parisienne, dans le cadre du Festival de Tonne. Lui aussi poursuit sa vie en tournée. En l'occurrence, demain et après-demain, 12 et 13 décembre à l'Hexagone à Mélan. Et puis, il y aura plusieurs dates dans Escale Danse en Val d'Oise. 30 janvier au théâtre Paul-Éluard de Beson. 2 février à l'espace Germinal de Fosse. 6 et 7 février à l'Apostrophe de Cergy. Et puis d'autres dates encore, 13 février au CNDC d'Angers, 1er mars à Genève, 15 mars au Quartz à Brest, 23 mars au Théâtre Liberté à Toulon, 27 et 28 mars à la Comédie de Valence, 5 et 6 avril, Théâtre de Saint-Quentin en Yvelines, 10 et 11 avril, CDC de Strasbourg, 16 au 18 avril, Maison de la Culture de Bourges, et enfin du 3 au 5 mai au Théâtre Garonne à Toulouse. Autant de dates et de lieux pour découvrir Unwanted de Dorothée Monianezza.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte.
Le troisième sujet de cette dispute danse est Play d'Alexander Ekman, présenté jusqu'au 31 décembre au Palais Garnier à l'Opéra de Paris. C'est la première fois que le chorégraphe suédois est invité à travailler avec les danseurs du ballet de l'opéra.
So, 1, 2, 3.
Hey, monsieur, c'est le mec.
Toi, c'est le mec. Toi, t'es là.
Play, c'est au Palais Garnier, à l'Opéra de Paris, jusqu'au 31 décembre. Anna Sigalevitch.
Alors, c'est un spectacle qui m'a plu, qui ne m'a pas convaincue de bout en bout. J'ai une nette préférence pour la première partie, parce qu'il y a deux parties qui sont assez distinctes, mais je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de très belles choses. Et c'est une soirée qui est assez enthousiasmante à de nombreux égards. Voilà, j'y suis allée en reculant, je dois dire, parce que je connaissais seulement le travail de Alexander Ekman à travers un spectacle qui était Swan Lake, qui a été donné l'année dernière au Théâtre des Champs-Élysées, que j'avais vraiment trouvé épouvantable, enfin embarrassant, quoi, de bêtises. Je ne comprenais pas du tout ce spectacle. J'avais l'impression de voir des danseurs jouer dans de l'eau. Enfin, vraiment, ça me dépassait complètement, ce spectacle. Donc, voilà, j'étais en plus Play. Je me disais, oulala, on va encore avoir une sorte d'injonction au bonheur, où les gens sont contents d'être en scène. Donc, j'étais voilà, plutôt a priori sceptique. Et je dois
dire
que...
C'est toujours bien, vous le savez.
C'est toujours bien. Mais là, ça a franchement marché. Donc ça commence, on a un décor qui est extrêmement blanc, on a quatre instruments qui sont en scène, à l'avant-scène, quatre types de saxophones, puis ça commence à jouer, les danseurs entrent en scène, on a au premier étage, en fond de scène surélevé, plein d'instruments qui sont disposés, où donc les musiciens vont prendre place, et puis le jeu va commencer. Donc c'est vraiment un thème et variation sur le jeu. Dans la première partie, il y a une légèreté, il y a une immédiateté des choses que je trouve extrêmement réussie, et il a réussi à faire une chose. Vous savez, quand on observe des enfants qui jouent, ils sont tout à leur jeu, ils sont complètement concentrés. Le monde à côté n'existe pas, ils créent vraiment une sorte de monde, une bulle parallèle, et il y a des moments dans ce spectacle qui sont vraiment comme ça, et c'est très beau parce que c'est tout un imaginaire qui se développe, qui se déploie et qui est très inspirant pour le spectateur. Il nous emmène, on est transporté, il y a un vrai ailleurs. Donc on a ça au départ par des choses qui sont très simples. Juste, ça commence, d'ailleurs c'est presque une ambiance un peu Gaga Dance. Il y en a un qui fait, les autres qui répètent. Les corps sont très libres comme ça sur scène. Ça c'est aussi un des plaisirs du spectacle, on sent, il y a plus de 30 danseurs je crois en scène, on sent un grand 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 plaisir des danseurs à danser cette chorégraphie, qui est une chorégraphie avec des corps extrêmement libres, extrêmement épanouis, une virtuosité aussi qui est payante, c'est-à-dire voilà, quand les filles sont sur pointe, elles font des grands développés, elles font des grands jetés attitudes, ça tourne, mais avec, vous voyez, une virtuosité payante, ça se voit, c'est lâché, c'est ouvert, c'est libre, et on sent qu'ils aiment beaucoup ça. Voilà, donc je vais vous citer deux petites scènes de jeu qui sont très simples, mais juste une jeune fille, Marion Barbeau, qui est sur un podium à Jardin, un garçon, Simon Le Borne, qui est sur un autre podium à Cour. Elle joue avec ses pointes, elle fait des bruits, et il répète les bruits avec le son. C'est complètement nul, hein, quand je raconte comme ça. Mais ils sont très concentrés en le faisant et ça raconte quelque chose de très bien. Pareil, quand on voit François Allu et un jeune... Alors, c'est un quadri. Attendez, je cherche son nom.
André Assari.
Merci, Philippe. Ils sont comme dans un miroir à répéter les gestes les uns des autres et ils sont complètement ensemble, complètement connectés. Et donc, du coup, il n'y a pas la démonstration d'être en scène et de montrer au spectateur. Il y a être tout entier à son affaire. Et ça crée quelque chose, à mon sens, de très réussi. Voilà, pour la première partie.
Alors on reviendra vers la seconde partie dans un instant, après avoir écouté une première fois Philippe Noisette sur Play d'Alexander Ekman.
Oui, je trouve qu'Anna a très bien résumé ce qui est difficile à résumer. C'est une pièce foisonnante. Je crois qu'il y a une image, une séquence tous les deux minutes. C'est une pièce qui fait presque une heure cinquante. C'est vrai qu'on était resté. Alors, j'ai eu la chance de voir d'autres pièces d'Alexander Ekman, donc je savais qu'il était capable d'autre chose que ce Swan-Lake assez calamiteux. Donc, pour dire, hein, l'idée c'était de faire danser la troupe, c'était le ballet Norvège sur l'eau. Ce qui évidemment est une contrainte improbable, puisque au bout d'un moment, vous ne pouvez pas vraiment danser sur l'eau, si ce n'est faire des glissades et autres. Donc là, il s'est peut-être dit, voilà, j'ai des contraintes qui sont la contrainte maximum qui est l'Opéra de Paris. Je ne peux pas tout faire, mais je vais essayer de faire tout ce que j'ai envie de faire. Cette idée qui est, pourquoi joue-t-on et pourquoi à un moment cesse-t-on de jouer ou joue-t-on autrement effectivement, il y a un passage de l'enfance à l'adolescence et de l'âge adulte où peut-être les jeux sont d'autres jeux, des jeux de compromission, des jeux d'influence. Il faut remettre tout cela dans le contexte de l'Opéra de Paris, qui est quand même une maison où il y a une école, où il y a un concours, où il y a quand même
une hiérarchie
très importante.
D'ailleurs, il y a une chose intéressante, c'est qu'il y a un danseur, pardon, je vous interromps juste une seconde pour digresser une seconde, c'est qu'il y a un danseur étoile, Stéphane Bullion, ouais, il y a trois premiers danseurs, Zuspéréguy, François Allu et Vincent Chaillet, et les autres, les rôles principaux, c'est-à-dire quand même Simon Le Borgne et Caroline Haussmann, ce sont des quadrilles. Donc c'est intéressant, tout est chamboulé, pardon.
Ils sont plus bas dans la hiérarchie,
oui, pardon,
parce qu'il faut le dire.
Voilà, c'est vraiment quadrilles, voilà. Premier danseur et danseur étoile.
Voilà, il faut le rappeler toujours. Philippe Noisette, poursuivez avant qu'on entende
Florian. Ce qui fait une chose assez intéressante, car en général, quand on utilise un danseur étoile ou deux danseurs étoiles, on essaye de les mettre à égalité, puis il y a toujours un rôle fait pour eux. Là, Stéphane Bullion, il est pas transparent, loin de là, mais il est là avec d'autres. Ouais. Et ça, c'est vraiment une chose qu'il a réussi, c'est qu'il y a un groupe. Il y a un groupe qui est peut-être comme à l'époque du groupe de recherche chorégraphique de l'Opéra de Paris, ça remonte à longtemps, où en fait, on prenait des danseurs et ils partaient pour une aventure. Ils partaient pour une aventure avec vraiment des chorégraphes très contemporains. Là, il y a un peu cette idée de l'aventure. Alors, effectivement, je suis d'accord avec Anna, tout n'est pas complètement réussi. Je pense que l'écriture chorégraphique d'Alexander Ekman est plus intéressante en général. Et là, il va peut-être pas au bout de certaines idées, notamment par rapport à la gestuelle. Mais il y a vraiment quand même un vrai plaisir partagé.
Alors, est-ce que Florian Guettet, qui, je le rappelle, est au téléphone parce que son train, retardé par la neige, est arrivé fort tard à Paris. Florian, est-ce que vous avez été sensible à cette proposition d'Alexander Ekman à l'Opéra de Paris ?
Mauvaise semaine pour moi. Non, j'ai pas été emballé du tout. Je trouve que c'est une pièce de divertissement sur le divertissement. J'ai eu l'impression que c'était un spectacle jeune public et qu'on nous l'avait pas dit.
C'est pas gentil pour le jeune public quand je vous entends dire ça.
Ben non, mais vous voyez, en fait, moi, je n'aime pas le divertissement. Je suis comme tout le monde, je m'amuse, je regarde des bêtises à la télé, etc. C'est pas un refus de m'amuser, hein. Mais c'est que c'est pas par l'intellectualisme non plus. C'est que le divertissement, il a tendance à lisser ou à polisser mon regard. Et c'est vrai que quand Ekman, dans la seconde partie, donc la première partie, Anna l'a très bien dit, c'est le jeu, donc tout est plutôt blanc, jovial et souriant. Et puis la deuxième partie, on arrive dans le monde du travail. Et là, à ce moment-là, ben, on a beaucoup de clichés, hein, évidemment, qui sont là pour marquer, pour flécher, en fait, pour qu'on comprenne bien qu'on est dans l'âge adulte et du travail. On a la cigarette, l'horloge, les lunettes, le café, les cheveux gris, l'attaché case, et une forme d'uniformisation à ce moment-là des comportements, des danses, etc. Moi, c'est sûr que quand il n'y a pas d'aspérité dans ce que je vois, que je suis forcément reconduit sur des choses très binaires, très, très caricaturales, ben, je me dis que ça ne sert à rien de nous faire un livret de 60 pages où on nous convoque Roger Caillois, Huizinga, Eugène Fink et Nietzsche pour parler du jeu. Parce que finalement, du jeu, il ne retient que quelque chose d'assez convenu. Moi, je ne sais pas si c'est un spectacle sur l'enfance, mais j'ai l'impression que c'est le spectacle d'un enfant. C'est-à-dire qu'il a voulu se mettre lui-même dans la place d'un enfant et qu'un enfant, effectivement, je pense qu'un enfant de 12 ans aurait pu écrire la note d'intention. Alors évidemment, après, il y a plein d'astuces de dramaturgie. Voilà, c'est un entertainer, il le dit, il l'assume, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc forcément, ben, quand on cherche cherche à tout prix à capter l'attention, ça se fait toujours peut-être au détriment d'un potentiel d'interrogation, de réflexion. Donc là, on n'était pas forcément là pour ça, c'est évident. Mais moi, après ces stratégies de l'effet, c'est sûr que je suis pas le bon client pour ça, quoi. Je suis clairement pas le bon client pour ça. J'aurais aimé peut-être un petit peu plus de tragique ou de gravité, non pas simplement dans le monde du travail et adulte, sous une forme nostalgique, mais aussi de montrer que le jeu est tragique. Et à part à la fin de cette première partie, où il y a une forme d'épuisement et de mélancolie qui s'installe, et que bizarrement, j'aurais pu apprécier, à part ça, j'ai trouvé ça quand même très, très... très sans nuance, en fait, cette vision du jeu, du play, etc.
Alors, vos camarades boudent d'intervenir, oui. Vous les voyez pas aujourd'hui, mais Anna Sigalevitch.
Ah non, là, franchement, je suis en profond désaccord avec vous, Florian, parce que...
Au départ, vous opiniez, sur la deuxième partie.
La deuxième partie, je l'aime pas, moi. Je vais expliquer. Mais sur la première partie, je suis pas du tout d'accord avec vous, parce que pour moi, il y a justement une profondeur dans cette légèreté, dans cette immédiateté, dans le personnage de Simon Leborgne, donc ce quadri, donc ce jeune danseur, qui a un physique presque à la Bernard Buffet. Enfin, il a un physique très étonnant et on ne sait jamais où il est. Il est à la frontière tout le temps. Et pour moi, il y a une gravité dans le fait d'être extérieur à ce jeu, d'essayer d'en être, de ne pas en être. Il y a quelque chose qui n'est jamais totalement clair dans sa figure. Quand les danseuses arrivent avec les bois, je ne trouve pas du tout que ce soit purement léger. Enfin, je trouve qu'il y a une vraie beauté plastique.
On dirait un Mathieu Barnett chip.
Oh non, c'est pas vrai. Non. Là, je trouve que vous exagérez. En revanche, ce que je trouve dommage, c'est d'expliquer les choses dans la seconde partie. Pour moi, la seconde partie, il explique et ça devient un peu psychologique. Et ça, je trouve que c'est dommage. En effet, on a compris les attachés caisses, les lunettes, on devient des adultes, etc. Et moi, je trouve que la profondeur est dans la légèreté de la deuxième partie. Et en revanche, dans la légèreté de la première partie. Et en revanche, quand tout d'un coup, il y a une volonté de dire, cette volonté de dire en citant Alan Watts, donc on a des phrases qui sont, qui nous disent que si je dois survivre, la vie devient une contrainte, pas un jeu, que quand on devient adulte, on devient des escrocs. Moi, je suis pas d'accord en plus avec ça. Et que. Le côté garder votre âme d'enfant pour rester heureux, je le trouve un petit peu dommage parce que je l'ai senti au départ et j'avais pas besoin qu'on me le dise pour le sentir.
Philippe Noisette,
je trouve qu'il y a une vraie mélancolie. Alors, est-ce que c'est la mélancolie scandinave? Je ne sais pas. C'est vrai que. Alors, il y a quelque chose qui. On va peut-être dévoiler le ce qu'on ne devrait pas dévoiler, à savoir qu'il y a un rappel, si on peut dire ça comme ça. Le spectacle ne s'arrête pas quand on pense qu'il s'arrête. Il y a encore une chose. À ce moment-là, Alexander Ekman joue avec le spectateur qui n'en demande. Voilà, qui aime qu'on joue avec lui d'une certaine façon. Visiblement, à l'opéra, ils adorent jouer avec les babales en toutes sortes. Je déteste cette partie-là. Je déteste cette espèce de rappel. Et en même temps, ça m'intéresse. Car il sait très bien à quoi s'attendre. Il sait très bien ce qu'il va provoquer. Il sait très bien que le spectateur a quand même un instinct un peu... Je ne vais pas parler d'instinct grégaire, mais... Voilà, on lui lance une balle, il va jouer avec.
On le voit toutes les semaines.
Voilà, exactement. Comme si il disait, voyez, tout ce que j'ai fait, en fait, c'était vous tendre un miroir. C'est un spectacle qui a des défauts, qui a une vraie ambition. Dans la saison de l'Opéra de Paris, il n'y a pas de spectacle en danse avec autant d'ambition, je pense. Donc il faut le prendre avec. Avec ce regard. C'est un spectacle de fête qui déjoue le spectacle de fête.
Florian Guettet.
Oui. Voilà, non, dans cette première partie. Hein. Vraiment, entre le cosmonaute, le roi travesti, le clown, les hommes à tête de globe, la ballerine qui effectivement a le pied lourd grâce à son compagnon qui marque en fait ses pas, mais qui à un moment tombe. On tombe dans le gag le plus terrible. Donc c'est vrai que je suis passé à côté. Je crois que j'ai développé très vite des réticences quand j'ai vu le début. Moi en fait, ce qui me gêne au-delà effectivement de ce côté très démagogique de s'adresser au public. Alors on lance des grands ballons, puis ensuite ces balles, etc. Mais de vouloir forcément occuper tout l'espace, tout l'espace-temps, d'être forcément dans une forme de saturation, de ne jamais laisser une seconde de répit. Et moi, en fait, ça m'oppresse plus qu'autre chose, quoi, cette idée d'avoir 1000 idées à la seconde et que nous, on devrait toujours y réagir, quoi. Ça me rappelle, en fait, c'est Jean-Louis qui parlait des schizophrènes. Il disait, mais schizophrènes, c'est pas des bons créateurs, parce qu'en fait tout ce qu'ils cherchent à faire c'est remplir la page. Ils ont horreur du vide, et il y a un peu de cette idée là quoi. Il a un peu horreur du vide, Alexander Ekman, et moi j'aime peut-être trop le vide pour lui laisser. Donc du coup, quand on a effectivement ces 10 milliers, ces dizaines de milliers de balles qui tombent, ces grands effets de cubes qui montent et qui descendent, donc la grosse machinerie de la scène de l'opéra, mais moi, ça a tendance à plutôt me replier sur moi plutôt que m'inviter à cette participation que je trouve un petit peu forcée. Je me suis sentie avoir un peu la main forcée pour venir réagir à tout ça. Je préfère gagner en autonomie et je pense qu'il nous en laisse pas tant que ça en tant que public.
Merci à Manu Farine qui a accueilli ce soir Florian Gaieté, rescapé des voies de chemin de fer enneigées. Et merci bien sûr à mes camarades Anna Sikelevitch, Philippe Noisette et Asie Tundoy d'avoir participé à cette émission. On parlait à l'instant de Play d'Alexander Ekman qui est présenté jusqu'au 31 décembre au Palais Garnier. On conclut comme chaque soir cette émission avec le jeu de la dispute et on commence par un rappel du jeu de vendredi soir pour en connaître la réponse. Grégoire Diffior, question-réponse.
De quel dialecte du sud de la France provient le mot Adichatz ? Et la réponse était le gascon.
Ce soir, on fait gagner des invitations pour l'exposition Libre Figuration années 80 au fond Hélène et Édouard Leclerc à Landerneau. Quelle est la question ?
Quel artiste forgea dans les années 80 l'expression figuration libre désignant un groupe de 4 peintres ?
Votre réponse avec vos coordonnées postales à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Toutes les informations concernant cette émission sont à retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute, un site sur lequel vous pouvez également réécouter nos émissions et bien sûr vous abonner au podcast. Demain, 19h, dispute musique en compagnie à nouveau et on s'en réjouit d'Anna Sigalevitch, également de Marie Audroux et Guillaume Thion. À notre affiche, le Barbier de Séville, l'opérateur Rossini dirigé par Rémi Rohrer, mise en scène Laurent Pellist au Théâtre des Champs-Élysées. Nous parlerons également de La Bohème, opéra de Puccini, dirigé par Gustavo Dudamel, mise en scène Klaus Gutz, c'est à l'opéra Bastille. Et enfin, le CD Fantaisie et Sonate de Mozart, interprété par Menahem Pressler, édité par la Dolce Vita.